de Metz, Metz. À Thionville. Thionville avec RPL 89.2.
Bienvenue, Maître Guyon, donc avocat spécialiste de la défense des libertés et bien d'autres choses, mais en tout cas c'est là-dessus qu'on va échanger, notamment aussi la loi fin de vie. Vous êtes au barreau de Montpellier et Paris, et puis je ne sais pas si on peut dire que vous êtes un lanceur d'alerte, mais en tout cas vous êtes un communicant très efficace, plus de 700 vidéos sur votre compte YouTube et 50 000 abonnés. Merci d'être avec nous et bienvenue Maître Guyon.
Je vous entends bien, merci de l'invitation.
Super, alors... on va donc aujourd'hui parler du projet de loi fin de vie avec vous. Vous avez publié il y a quelques semaines déjà un article, fait plusieurs interventions aussi vidéo. Alors, vous recadrez dans votre article la loi actuelle, en tout cas, qui déjà apporte un certain nombre de réponses avec la loi Leonetti. Les deux lois Leonetti qui donnaient un équilibre, à votre avis, un bon équilibre entre le droit de la vie et le droit à la mort. Qu'est-ce qui va changer par rapport à cette loi Leonetti en quelques mots? Quelles vont être les avancées ou en tout cas les grands changements majeurs de cette loi fin de vie?
L'avancée majeure, c'est qu'on fait un pas de plus en direction de l'eugénisme. C'est-à-dire qu'il y a certaines vies qui mériteraient d'être abrégées. C'est ça le message qui passe avec cette proposition de loi de l'aide à mourir.
Excusez-moi, maître, le son n'est pas très bon. Est-ce que vous avez la possibilité peut-être d'enlever un haut-parleur ou un casque?
Est-ce que c'est mieux là?
Oui, c'est mieux là, merci, désolé.
Très bien. Bon, je disais, le projet de l'aide à mourir, c'est un pas de plus vers l'eugénisme. Pourquoi l'eugénisme? Parce que le message qui est passé, c'est que certaines vies mériteraient peut-être d'être abrégées. Et jusqu'à maintenant, vous l'avez évoqué, on avait un certain équilibre. C'est-à-dire qu'on avait notamment les soins palliatifs qui avaient pour objectif principal d'atténuer les douleurs, quitte à ce qu'à un certain moment donné, ça puisse entraîner la mort. Mais ce n'était pas l'objectif des soins palliatifs, simplement ça pouvait en être une conséquence. Là aujourd'hui, on a finalement un droit qui va être accordé à des patients en situation de vulnérabilité, on imagine très bien, d'abréger leur vie. Or, c'est un choix de société. C'est-à-dire que, au lieu de penser comment améliorer la qualité de vie, on est en train de réfléchir aujourd'hui à comment l'abréger. Et ça en dit long sur l'état psychologique de notre société.
Alors, je rebondis là-dessus. On a compris votre position générale sur aussi l'alternative finalement de l'aide à mourir, qui est les soins palliatifs. La situation des soins palliatifs en France, elle n'est pas tellement favorable dans le sens où les diverses estimations montrent que c'est seuls 50%, voire même selon d'autres 30% des personnes qui en ont besoin qui peuvent y accéder. Et à ce titre. Est-ce qu'on peut considérer que une fois la nouvelle loi fin de vie adoptée, les personnes qui seraient dans les pratiquement 20 départements où il n'y a pas de soins palliatifs, donc il n'y a pas d'accès, ou d'autres où il y a trop d'attentes, n'auraient pas réellement le choix entre demander la fin de vie et continuer à vivre avec les soins palliatifs? Est-ce qu'il y a une perte de liberté à ce niveau-là, potentielle?
On a surtout le sentiment, comme de manière générale, que l'État se défausse de sa propre incapacité à pourvoir en matière de services publics sur les responsabilités individuelles. C'est-à-dire qu'il le fait dans tous les domaines. Chaque fois qu'il est incapable de pouvoir répondre à une demande, il renvoie aux initiatives privées le soin de régler la question. C'est-à-dire qu'au lieu d'être en mesure de proposer des soins palliatifs sur l'intégralité du territoire, ce dont, avec le niveau d'impôt que nous avons aujourd'hui, devrait être une obligation de résultat.
D'ailleurs, j'en profite, maître, pour signaler que la ministre de la Santé a annoncé l'objectif fin 2026 de la couverture totale des départements en question. Je vous laisse continuer.
Ouais, bon, les paroles n'engagent que ceux qui y croient, donc je pense pas que ça ira très loin, cette affirmation. Mais quoi qu'il en soit, on constate une chose, c'est qu'aujourd'hui, en réalité, la fin de vie, ça a un coût. Et donc, au lieu de chercher à répondre à comment on pourrait améliorer la qualité de vie partout sur le territoire. On dit à tous ceux qui ne peuvent pas bénéficier de ces soins, vous avez la possibilité d'abréger votre vie. Et ça, c'est particulièrement cynique.
Ce que vous décrivez aussi, c'est l'aspect économique, alors qui est un peu choquant, mais qui est un aspect qui a été traité dans une étude, justement, dont je voulais parler, et qui montre aussi l'économie, en tout cas qui est basée sur une simulation, qui montre l'économie qu'apporterait cette loi sur la fin de vie. On parle de plusieurs milliards, je suis en train de rechercher le chiffre, et en tout cas on peut le retrouver dans l'étude Fondapol, qui justement aussi revient donc sur cette économie potentielle qui pourrait être de mémoire 1,6 milliard par an. Et dans cette même étude qui fait référence, et pour rebondir sur ce que vous disiez, en Belgique, on observe des demandes d'euthanasie sans lien avec la fin de vie dans 20% des cas. Et dans certains cas aussi, c'est un aspect économique, comme vous le disiez, qui peut primer. Est-ce que c'est une dérive que vous craignez en France si cette loi est adoptée ?
Oui, complètement. C'est en fait la fenêtre d'Overton. On vient aujourd'hui d'élargir le débat sur l'idée qu'il y a certaines vies qui ne mériteraient pas d'être vécues.
Alors, donc, c'est pas présenté comme ça, mais en tout cas, c'est votre interprétation.
C'est aujourd'hui le droit qui va être accordé à certaines personnes qui vont pouvoir considérer si leur vie mérite ou non d'être vécue. Mmh. Et comme vous l'avez compris, en fait, il y a des pressions conscientes et inconscientes. Faisons un parallèle, par exemple, avec aujourd'hui le nombre d'enfants qui naissent en France. On a beaucoup de femmes qui aujourd'hui renoncent à la maternité parce qu'elles considèrent que ça va avoir un impact écologique. Et donc, au nom de l'écologie, elles estiment qu'il ne faudrait pas donner la vie. Vous imaginez bien que quand on est capable d'avoir une telle capacité mortifère à inviter des femmes, consciemment ou inconsciemment, à donner la vie, il ne sera pas très compliqué, face à des personnes qui sont vulnérables, de pouvoir les inciter de manière insidieuse à abréger leur vie. Et c'est tout ça, la crainte, en réalité, de ce projet de loi de l'aide à mourir. C'est qu'on ait une dérive vers, finalement, la possibilité offerte à des personnes qui sont en situation de vulnérabilité de les aider à mourir plutôt que les aider à vivre.
Alors là, je suis obligé de rebondir sur ce que vous dites, parce qu'une des critiques qui est formulée assez largement sur ce projet de loi de fin de vie, c'est qu'il n'y a pas d'expertise de psychologue ou de psychiatre. Elle n'est pas obligatoire en tout cas. Et justement, là, vous parliez de faiblesse potentielle, donc on pourrait dire abus de faiblesse en tout cas. Est-ce que justement, ce ne serait pas un garde-fou très très important, l'avis obligatoire d'un psychologue ou d'un psychiatre pour accéder à la fin de vie dans le cadre de cette loi?
Si, tout à fait, ça serait une garantie procédurale, mais encore une fois, une garantie qui pourrait tout à fait sauter face aux circonstances. Vous savez, il y a la loi, ce qui est écrit dans un texte, et puis ensuite il y a la réalité, ce que vous vivez au quotidien. Et très souvent, il y a un décalage qui est considérable.
D'ailleurs, dans la Convention citoyenne sur la fin de vie, aucun psychiatre n'a été auditionné malgré les demandes des collectifs. Et là, je cite le docteur Véronique Lefebvre de Nouette, qui est gériatre et chercheuse. Donc ça, c'est aussi incroyable parce que la Convention citoyenne, c'était un processus démocratique qui devait amener à une loi avec l'expression de tous.
Oui, bon, finalement, on s'aperçoit encore une fois, c'est que tout était un peu prémédité, commandité, et qu'on avait juste besoin des outils pour confirmer que cette loi allait apparaître. C'était qu'une question de temps.
Sur le choix du rapporteur de la loi, Olivier Falorni, qui fait partie d'une association qui est pro fin de vie, en tout cas droit à la fin de vie, est-ce que pour vous, le choix du rapporteur, il devrait être plus neutre, autrement dit, si le rapporteur est partisan, est-ce que ça peut poser des problèmes dans la maturation de la loi, notamment en commission, mais même après?
J'ai envie de dire, c'est le concept même de la démocratie de la Ve République, c'est-à-dire que le rapporteur de la loi, c'est souvent un élu qui a une appétence pour le sujet qu'il va porter. Donc c'est pas le problème de cette loi-là, mais en réalité, c'est c'est la possibilité pour ces élus de porter des sujets qu'ils connaissent, ce qui est, à mon avis, plutôt une qualité.
Je reviens à votre vision de cette loi. Vous revenez sur le choix des mots. En fait, effectivement, dans cette loi, il n'y a aucunement le terme d'euthanasie ou de suicide même légalisé, mais il est remplacé par aide à mourir. Et pour vous, ce choix des mots aussi est un signe de l'orientation de la loi. Vous alertez aussi sur l'élargissement des critères. Notamment la phase avancée, est-ce que vous voulez nous en dire plus?
Les critères ont évolué puisque effectivement, vous faites référence à notre article qu'on avait écrit en mai 2024 sur le projet initial. Ils sont revenus un petit peu dessus. Il y a d'autres conditions qui sont aujourd'hui reprises. On reste quand même essentiellement sur la même chose, évidemment. Mais en tout cas, ce qu'on aperçoit, c'est qu'on parle quand même d'aide à mourir. Alors que la vie en société, et en tout cas le projet d'un gouvernement digne de ce nom, ce serait plutôt d'améliorer la qualité de vie et l'espérance de vie, pas de l'abréger.
Autre critique qui revient souvent et que vous évoquiez également le délai de rétractation du consentement qui est de 2 jours et puis la première phase qui est de 15 jours. Justement, je recite cette gériatre et chercheuse qui dit que, par exemple, pour mettre en place un traitement d'antidépresseur qui produit ses effets, il faut 1 mois en fait pour avoir les effets. Donc, évidemment, c'est plus long. Donc, des personnes, est-ce que le risque, en fait, c'est pas que des personnes qui auraient finalement pas choisi la fin de vie, faute d'un délai suffisant, fassent un choix qui n'en est pas réellement un, parce qu'elles n'ont pas eu les soins aussi. Et c'est ce que dit aussi Philippe Juvin, qui a été pas mal interviewé, député et médecin, qui a été pas mal interviewé sur ce sujet, que lui, quotidiennement, il voit que lorsqu'il y a une prise en charge de la douleur, lorsqu'il y a une prise en charge des patients, il y en a un grand pourcentage qui voulait mourir initialement et qui veut vivre ensuite.
Il y a un proverbe que j'aime beaucoup, qui est ne prenez jamais de décision définitive sur des humeurs passagères. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'évidemment, quand vous êtes dans une période de profonde dépression, sachant que ce n'est pas un des critères qui est évalué psychiatriquement ou psychologiquement pour déterminer si votre choix est libre et éclairé, eh bien, vous pouvez avoir tendance à vouloir recourir au suicide assisté, à l'aide à mourir, appelez-le comme vous voulez, à la fin, c'est exactement la même chose. Donc, clairement, on risque d'avoir un dévoiement de cette loi qui va servir à des personnes qui sont dans un état psychologique d'une extrême fragilité de recourir à cette solution finale. Parce que c'en est une, c'est une solution finale. Quand on décide d'abroger sa vie, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, c'est tout l'enjeu de cette loi, c'est qu'en fait, on est en train, plus ou moins, et c'est une réalité, de dériver vers la possibilité d'abréger sa vie comme on commanderait des chaussettes sur Internet.
L'autre question qui se pose sur cette loi, c'est l'absence de collégialité, c'est-à-dire qu'un médecin seul peut suffire pour faire suite à la demande de suicide assisté, de fin de vie du malade. Alors là, vous donnez une nuance, et j'aimerais bien que vous la développiez, que la congé, enfin, là, il y a une forme de collégialité, alors, mais comment est-elle prévue par la loi pour comprendre concrètement comment ça se passe?
Alors, j'ai pas suivi la dernière évolution. Je sais qu'ils sont revenus sur justement la critique qui avait été faite à l'époque sur le fait qu'un seul médecin puisse décider d'abréger ou non la fin de vie d'une personne. Donc là, ils sont revenus sur cette collégialité. J'attends vraiment de voir en fait les textes réglementaires qui vont être pris après la promulgation de la loi, puisque là, aujourd'hui, on est le 21 mai 2025 et je viens de vérifier encore sur Légifrance, la loi n'a pas été promulguée. Donc, il y a les grands principes dans la loi. On va voir comment ils vont être mis en place. Et c'est surtout la partie réglementaire qui va nous permettre de savoir concrètement le nombre de médecins, combien de médecins vont pouvoir décider, le délai, les éléments sur lesquels ils vont pouvoir s'appuyer pour donner leur accord ou non.
Voilà, justement, ben, Je recite le même médecin, le docteur Lefebvre de Nouette, qui parle de la sédation profonde. Donc, on parlait de la loi Leonetti tout à l'heure, qui est prévue dans cette loi en fin de vie, c'est-à-dire qu'on endort la personne pour qu'elle n'agonise pas dans la souffrance, et cela se décide collégialement. Donc, la question, c'est aussi pourquoi, du coup, l'aide à mourir se déciderait de façon non collégiale, effectivement. Ça, c'est pertinent comme remarque. Donc, en fait, au fond, finalement, cette loi, tout va dépendre des détails et, j'allais dire, de l'application du réglementaire, où là, il peut y avoir de potentielles dérives. C'est là que ça va se jouer. Est-ce que la loi peut encore évoluer? Est-ce qu'elle va faire encore un aller-retour parlementaire ou vraiment elle est prête à être promulguée?
Alors là, elle est prête à être promulguée. Hein. Donc, moi, si vous suivez sur le site Légifrance aujourd'hui, donc elle a bien été votée dans sa version définitive et on attend la promulgation. Une loi ne devient une loi que lorsqu'elle est promulguée. Et bien entendu, la loi a besoin parfois de mesures d'application, et c'est là où le pouvoir réglementaire, les décrets, les arrêtés vont intervenir pour préciser les modalités pratiques de cette fameuse aide à mourir. Et donc c'est là où je pense qu'on va avoir des belles surprises.
Oui, c'est là que les choses vont jouer vraiment. Et comment elles peuvent évoluer encore? Là, c'est vraiment au niveau de l'État, au niveau du gouvernement, que ça se décide, ou il y a encore des consultations, il y a encore des évolutions qui sont possibles?
Vous savez, le gouvernement décide de A à Z. Hein. Aujourd'hui, on n'a jamais autant légiféré par voie gouvernementale. Quand on parle de projet de loi, en réalité, qu'est-ce que c'est? C'est une loi qui est de l'initiative du gouvernement. Quand on parle de proposition de loi, c'est de l'initiative d'un parlementaire. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'aujourd'hui, en fait, ces parlementaires appartiennent à la majorité en place. Parce que bon, même si aujourd'hui, je crois que c'est Modem hein, qui a proposé cette loi, je vois pas trop la différence entre un macroniste et un membre du parti du Modem. Je vous dire sincèrement, je vois pas trop la différence. Donc je pense qu'on change juste les mots, mais c'est en réalité exactement la même chose. Je pense qu'ils sont d'accord sur à peu près tout. Et clairement, c'est télécommandé par le gouvernement. Évidemment.
Je vais reciter et vous faire réagir sur les propos du député Philippe Juvin, dont je parlais tout à l'heure, également médecin. Si vous avez très mal pour une consultation de la douleur en France, il faut 2 à 9 mois selon les départements. Et dans cette loi d'euthanasie de fin de vie, en fait, et là, ça pourrait être moins de 17 jours. Est-ce que, justement, là aussi, il n'y a pas une rupture d'égalité dans le choix qui devrait être possible entre lutter contre la douleur ou mettre fin à ces jours?
Évidemment, hein, là, il y a une vraie rupture d'égalité, et une rupture d'égalité géographique. Selon que dans quelle zone vous résidez, bah finalement, vous aurez plus ou moins tendance à faire appel à l'aide à mourir plutôt qu'aux soins palliatifs ou à une aide à mieux vivre. Et c'est ça qui est terrible. On va se séparer finalement plus facilement de deux types de catégories sociales. Ceux qui vivent dans les zones géographiques, dans des déserts médicaux, et ceux qui n'ont pas les moyens financiers de s'offrir les soins nécessaires pour essayer d'atténuer la douleur. Et c'est ça qui est malheureux, parce qu'on ne devrait pas avoir une espérance de vie qui change en fonction de la zone géographique dans laquelle on réside ou des moyens financiers dont on a à sa disposition.
Voilà, pour terminer sur d'autres dispositions de cette loi et passer à un autre sujet, le délit d'entrave pourrait-il s'appliquer à un psychologue ou un psychiatre qui ferait changer d'avis un patient ? Ou par exemple à des proches également, qu'en est-il de ce délit d'entrave? Parce que oui, le délit d'entrave, on imagine quelqu'un qui agit physiquement pour empêcher une action, comme ça pourrait être par exemple pour les anti-avortements. Mais là, ce délit d'entrave est quand même beaucoup plus général et il s'applique aussi, est-ce qu'il s'applique en fait aussi à, par exemple, potentiellement à un psychologue ou un psychiatre qui ferait son métier, qui ferait évoluer la vie de son patient?
J'imagine que c'est une question de degré. C'est-à-dire que le patient peut toujours décider à tout moment de mettre fin au processus de l'aide à mourir. Après, à pouvoir être en mesure de déterminer que c'est le psychologue ou le psychiatre qui l'a convaincu à changer d'avis, est-ce que ça pourrait être caractérisé d'un délit d'entrave? J'en suis pas certain. En tout cas, ça serait une dérive qui serait dangereuse.
Mmh. Ouais, voilà, donc... Effectivement, une vision un peu panoramique, et peut-être aussi on prendra des nouvelles avec vous sur justement lorsque la loi sera promulguée et qu'on aura justement les détails réglementaires qui, là, à mon avis, aussi pourront vous inspirer des commentaires à une vision plus.
Exactement. Moi, je sais déjà qu'avec les associations qu'on représente, on va certainement attaquer un certain nombre de mesures réglementaires qui entreront en application. On attend donc les textes réglementaires vraiment avec impatience, parce que c'est vraiment là qu'on va déterminer le pouls véritable de cette loi et son objectif final.
C'est-à-dire qu'en fait, vous pourriez attaquer des dispositions de la loi ou des dispositions réglementaires pour faire évoluer, un peu comme des amendements post-vote, en quelque part, grâce à l'action juridique?
L'action juridique, elle permettrait de contester déjà les dispositions réglementaires. Donc ça veut dire l'application concrète au cas par cas de cette loi. Ça, c'est une possibilité qu'on a.
Dans des cas précis,
exactement, à l'occasion de litiges. Ensuite, on pourrait également, devant un juge, discuter de la compatibilité de cette loi avec des règles fondamentales qui ont une valeur supérieure à la loi, notamment en ce qui concerne les dispositions de la Constitution. Il y a un certain nombre de libertés fondamentales qui pourraient être impactées par cette aide à mourir, mais également des dispositions contenues dans des conventions internationales, par notamment de la Convention européenne des droits de l'homme, parce que c'est une convention que je pratique régulièrement. Et là, effectivement, il y aurait des vrais sujets qui pourraient se poser et qui pourraient entraîner finalement une inapplication de la loi. Mais ça, on aura cette possibilité de le savoir que dans un second temps. Donc d'abord, ça va s'appliquer et ensuite, on va le contester.
Donc on prend rendez-vous pour voilà, connaître un peu la suite des actions
que vous mènerez.
Avec vous, j'avais envie, pour changer de sujet, tout en vous remerciant déjà de votre expertise, parler de la transparence et de l'UE, transparence administrative en l'occurrence. Et il y a un lien d'actualité, puisque il y a quelques jours, donc c'était le 14 mai, il y a eu un important rebondissement sur les SMS échangés entre Ursula von der Leyen et le patron de Pfizer, qui portait sur la négociation d'un très important contrat de vaccin. Il y a eu beaucoup de rebondissements. Alors ça, c'était en 2021, avril 2021. Beaucoup de rebondissements pour arriver à la plus haute cour juridictionnelle européenne, qui a tranché sur le fait que ce sont des documents administratifs et qui... voilà. Qu'est-ce que vous en retirez de ce rendu de la Cour suprême, on va dire, européenne?
Alors, la décision du tribunal de l'Union européenne a décidé que le refus de Mme von der Leyen, qui est la présidente de la Commission, bon, en fait, qui est le grand patron, hein, c'est elle qui décide comment se passe votre vie, ma vie, nos droits, nos libertés, donc c'est elle la vraie patronne, en fait, hein, qui n'a été élue par personne. Eh bien, elle avait, pour rappel, conclu des contrats à plusieurs milliards d'euros par SMS. Donc, ce qu'il faut savoir un petit peu, c'est qu'en France, vous avez des seuils à quelques dizaines de milliers d'euros, au terme desquels, si vous dépassez ces seuils, vous êtes contraint de faire des marchés publics, c'est-à-dire avec des règles de transparence, de communication, enfin bref, vous ne faites pas ce que vous voulez, et l'idée, c'est d'éviter le détournement de fonds publics, éviter que vous accordiez un marché à un copain pour des raisons purement politiques. Pourquoi? Bah parce que c'est de l'argent des contribuables. Et donc là, ici, on a la présidente de la Commission qui a signé des commandes de vaccins pour plusieurs milliards, par SMS. Bon, voilà. Ça, c'est voilà, juste pour vous revenir un peu en proportion. Vous faites ça demain, je peux vous assurer que c'est la prison immédiate. Là, ici, on a une présidente qui a été renouvelée en 2024 et qui a refusé de communiquer les SMS en décidant, en invoquant toute une série d'arguments, notamment sur des questions de santé publique, sécurité publique. Bref, ça a l'odeur de la corruption, ça a la saveur de la corruption, mais aux yeux du tribunal de l'Union européenne jusqu'à maintenant, ça n'était pas de la corruption. Bon, je pense qu'on est au tout début de cette affaire, et clairement, le meilleur reste à venir, puisque dorénavant, elle a l'obligation de divulguer ses SMS, et on va essayer de comprendre pourquoi ce type de contrat a été conclu par SMS, parce que c'est quand même très opaque, pourquoi on a commandé un grand nombre de doses, bien au-delà de ce qui était strictement nécessaire, à peu près 10 doses par citoyen de l'Union européenne. Je ne sais pas si vous imaginez. L'obligation vaccinale a été maintenue jusqu'à la troisième dose. Donc 10 doses, imaginez bien, c'est 3 fois trop. Et donc, avec autant de doses, il y a eu un gâchis d'argent public, puisque ces doses n'ayant pas été utilisées dans des délais assez précis, elles ont été pour la plupart détruites et jetées. Mais pire encore, c'est qu'aujourd'hui, même en 2025, on continue de commander des doses de vaccins alors que la population générale a manifestement, en tout cas, fait part qu'elle était peu intéressée par ces vaccins expérimentaux. Expérimentaux pourquoi? Parce que, vous le savez, ils ont été mis en circulation en raison de l'urgence dans des délais qui étaient bien plus courts que ce qui est habituellement le cas. Et
Sur le
donc,
plan,
on a
oui, pardon,
vacciné, puis
Max.
ensuite, malgré tout ça.
Voilà, pour compléter ce que vous disiez sur le plan économique, il y a aussi une particularité, et ça fait sens par rapport à ce que vous aviez dit, c'est que ce contrat donc commence à être négocié en avril 2021 par texto entre Ursula von der Leyen et le patron de Pfizer, Bourla. Il a la particularité, lorsqu'il est conclu en mai, d'avoir porté le coût de la dose de 15,50 à 19,50, soit quasiment un quart du prix, ce qui, on pourrait dire, n'est pas une très bonne négociation, ou ce qui peut ouvrir aussi une question, voilà, ce que vous
De
disiez,
corruption, enfin
de corruption.
clairement, enfin, il y a que ça qui pourrait expliquer pourquoi on accepte de commander 3 fois trop de doses et de les payer à un prix qui était 2 fois plus élevé, alors qu'à ce moment-là, la demande diminuait. Enfin, en termes de négociation, si je devais négocier un contrat de travail, je ne prendrais pas Mme von der Leyen, parce que là, je suis sûr que je vais perdre. Donc là, c'est exactement ce qui s'est passé, sauf que Mme von der Leyen, elle joue avec notre argent. Donc qu'elle soit pas bonne en affaires, c'est une chose, mais qu'elle joue avec notre argent, c'en est une autre.
Oui, un quart du prix, c'est peut-être autre chose qu'être un mauvais négociateur, c'est quand même assez important. Et justement, donc, après ce qu'on a appelé, ce qu'on vient de résumer, hein, qui est le Pfizer Gate, aussi on peut mentionner bien sûr la communication aux députés européens de contrats qui sont illisibles, tellement ils sont raturés, caviardés. Mais ça aussi, ça pourra changer, je pense, avec l'action notamment de. Qui a été intenté par un lobbyiste belge et plusieurs États européens, ça peut, est-ce que ça peut relancer cette action qui est déposée en Belgique, Frédéric Baldan, hein, je crois.
Tout à fait, ça relance en tout cas cette action. Il y a aussi une chose très intéressante, c'est que récemment, la Commission de l'Union européenne a pris une décision dans laquelle elle a décidé d'instaurer une sorte de principe de non-divulgation de tous les documents qui la concernaient, dont notamment les fameux SMS, hein, vous avez compris. Lorsqu'elle prend cette décision en mai 2025, il faut savoir que les règles procédurales s'appliquent immédiatement. C'est-à-dire que ça concerne également les fameux SMS de 2021. D'accord? Donc là, aujourd'hui, j'ai été mandaté par les patriotes de François
Florian Philippot.
de Florent Philippot, qui m'a effectivement mandaté pour faire annuler cette décision, qui est contraire en réalité à des règles de l'Union européenne qui rappellent que le principe de transparence est essentiel dans une démocratie et que, évidemment, les citoyens ont le droit de demander des comptes aux administrations et également à l'administration de l'Union européenne.
Est-ce que c'est à peu près la même transposition de, en tout cas, cet accès aux documents administratifs qui peut exister, je crois, avec la CADA en France? C'est quelque chose qui a été transcrit de l'Europe ou ce sont quand même deux choses différentes?
Alors, l'Union européenne s'est beaucoup inspirée de ce qu'on fait en France.
D'accord,
On est
c'est
quand
dans
même
l'autre sens
assez
pour une fois, dans
avant-gardiste.
l'autre sens.
Voilà, c'est exactement, c'est dans l'autre sens. Alors, il n'y a pas de CADA au sens de l'Union européenne, donc de commission administrative des documents administratifs, mais vous pouvez effectivement demander au tribunal de l'Union européenne l'annulation de cette décision prise par la Commission de l'Union européenne. Et si jamais on vous refuse la communication de certains documents, eh bien, vous pouvez également saisir cette juridiction de l'Union européenne qui pourra se prononcer sur le droit ou non d'accéder à ces documents.
Donc, ce qui changerait avec cette règle, ce serait que l'usager doit faire la preuve de l'intérêt pour le public du document. En fait, ça inverse ce qui était devenu un droit pourrait devenir juste. Il faut justifier de ce droit maintenant. C'est ça qui se passerait donc.
Exactement, en fait, on soumet à des conditions une liberté qui est à la base indiscutable.
Voilà, donc c'est vrai que là, du coup, je pense que c'est une action qui a été menée par d'autres plaignants hors France. Et vous êtes le premier avocat, effectivement, mandaté par les patriotes, Florent Philippot, à faire vôtre cette action européenne. Donc vous seriez les seuls en France, a priori.
Pour l'instant, alors probablement, il y a peut-être d'autres personnes, encore une fois, mais évidemment, ce n'est pas toujours évident de savoir ce que tous les avocats de France font s'ils ne communiquent pas autant que nous pouvons faire aujourd'hui.
Voilà, effectivement, donc ça fait sens avec justement la décision La Cour suprême, la cour la plus importante juridique européenne, donc affaire vraiment à suivre. Est-ce que pour vous, ce changement de réglementation, ça répondait justement à la problématique de rétention d'informations des contrats et surtout des SMS de négociation de Ursula von der Leyen? Est-ce que c'est imaginable que la Commission ait créé ce changement de règle d'accès aux documents administratifs pour se couvrir en quelque sorte?
Bah, disons qu'il est assez peu probable d'imaginer une pure coïncidence. Cette décision, elle est quand même tombée vraiment à pic. Et surtout, elle va simplement retarder l'inéluctable. C'est-à-dire que j'ai aucun doute sur le fait qu'il y a à ce niveau européen, on ait des possibilités de corruption. J'ai aucun doute là-dessus. C'est juste que pour l'instant, ça n'a pas éclaté au grand jour et que, évidemment, grande majorité de la population ne se pose pas forcément ces questions-là parce que, vous savez, quand vous êtes pris dans l'engrenage du quotidien, à savoir comment vous allez finir le mois, évidemment, on est un peu des privilégiés aujourd'hui de pouvoir se poser toutes ces questions-là et on en a bien conscience. La raison pour laquelle on doit agir au nom de l'intérêt général pour que ce type de scandale puisse éclater et que cette corruption institutionnalisée prenne fin. C'est pas normal qu'on signe des contrats à plusieurs milliards avec l'argent des contribuables européens, avec des enjeux aussi importants comme ça par SMS.
Donc affaire à suivre, bien sûr. Vous abordez aussi, mais ça on peut renvoyer peut-être à votre site, à votre chaîne YouTube, la question aussi de la surveillance algorithmique et de la reconnaissance faciale. Est-ce que peut-être vous nous dire quelques mots aussi sur ces libertés et peut-être après conclure sur votre vision globale d'évolution des libertés éventuellement?
La dérive dans laquelle on est en train de rentrer, c'est que on en sait de moins en moins sur l'État, sur son fonctionnement, sur la manière dont notamment les comptes publics sont tenus. Hein. Je vous rappelle que les précédents gouvernements d'Emmanuel Macron n'ont jamais voulu communiquer officiellement comment ils étaient arrivés à un dérapage des finances publiques, ce qui en dit quand même long sur la manière dont l'argent des citoyens français est géré. Donc on en sait de moins en moins. Et à l'inverse, un grand nombre de mesures sont prises pour qu'on puisse tout savoir sur vous. Et quand je dis tout savoir sur vous, c'est vraiment du téléphone portable qui vous écoute au quotidien jusqu'à votre présence dans la rue où on peut remonter toute votre vie. Je rappelle également, parce que c'est un sujet intéressant sur les compteurs Linky, mais les compteurs Linky sont un outil de contrôle incroyable parce qu'on sait quand vous êtes chez vous, quelles sont la nature des consommations électriques que vous avez chez vous, combien de personnes vivent chez vous, quelles sont vos habitudes de vie, et demain, il sera tout à fait possible de pouvoir décider si oui ou non, on diminue, voire on coupe totalement l'électricité dans votre logement, et ce, pour des raisons, soit de crise économique, politique ou quoi que ce soit. On a bien eu les mesures de délestage qui avaient été prises en septembre 2022 suite justement à la crise de l'énergie. On imaginerait très bien demain la possibilité d'avoir le soin de délester certaines habitations, certains logements, parce que les personnes qui seraient présentes à l'intérieur pourraient être de potentiels dangereux opposants politiques, complotistes ou tout ce que vous voulez, bref, vous leur donnez un nom. Et donc c'est vraiment une dérive dans laquelle on est en train d'aller, c'est-à-dire que l'État sait absolument tout sur vous, alors que vous-même, à l'inverse, vous ne savez rien de l'État.
Les usagers de Linky, par exemple, n'ont pas de droit d'anonymisation des données, etc. Ça n'existe pas, ça avec la CNIL, ce n'est pas une disposition sur laquelle, en tant que consommateur de Linky, on peut avoir accès.
La CNIL a estimé qu'il y avait une juste proportion entre à la fois la protection de vos données personnelles et l'objectif d'intérêt général, d'intérêt public, d'efficience de l'énergie, c'est-à-dire consommer mieux, consommer moins, et de pouvoir être capable de mesurer précisément votre consommation énergétique. C'est comme ça que les compteurs Linky ont été instaurés. C'est-à-dire qu'on a cherché à mieux mesurer pour mieux consommer et pour évidemment permettre à la fois aux usagers de faire des économies et au système électrique d'être beaucoup plus efficace. En tout cas, ça, c'est sur le papier. Maintenant, ce qu'on se rend compte, c'est que, en fait, on sait exactement quand vous êtes chez vous, combien de personnes sont chez vous, vos habitudes de consommation. C'est gigantesque le nombre d'informations qu'on peut avoir sur vous, grâce notamment au compteur Linky. Mais c'est juste un exemple.
C'est juste pour vous montrer un exemple qui illustre un peu votre vision, parce qu'on pourrait presque dire qu'en plus d'être avocat et d'être un communicant, peut-être un lanceur d'alerte, Vous êtes quelqu'un qui porte, et on le voit dans vos différents articles, une réflexion philosophique sur la vie en général, sur les libertés. Vous avez cette phrase terrible, les libertés fondamentales, que le gouvernement a envie de rendre facultatives, conditionnelles. Ça, c'est un avis qui est un peu général sur l'ensemble des sujets que vous couvrez par rapport aux libertés.
Tout à fait. Moi, j'estime qu'on est passé de la société libérale à la société du pass, c'est-à-dire le pass sanitaire, le pass écologique. Hein. Les ZFE, ce sont des pass écologiques. Le pass énergétique, la possibilité de vous débrancher avec les compteurs Linky. Et donc, en fait, petit à petit, on est en train de dériver vers une société dans laquelle l'interdiction est la règle et la liberté l'exception. Vous ne pouvez jouir de votre liberté qui fut un temps fondamental seulement si vous remplissez des conditions qui sont subjective, évolutive et qui dépendent toujours d'une volonté politique.
Merci beaucoup, Maître Guyon, pour cette conclusion et l'ensemble de votre intervention. Effectivement, on reste en contact pour voir l'évolution de ce Pfizer-Gate et de la rétention potentielle administrative mise en place par l'UE. Et puis, bien sûr, sur les réelles conditions d'application et de règlement de la loi fin de vie et autres sujets sur les libertés individuelles. On vous remercie, on renvoie à votre site David Guyon, GUYON, sur le YouTube, et puis votre site aussi qui est très fourni en articles.
Merci beaucoup, merci de l'invitation.
Au revoir.
Au revoir. 89.2.